décembre 1997, cours de Raveman à Montevideo.
Ça. Alors, votamo di Baftini. Ça vient du mot lève. Le cœur. Libavti ou Libavtini. C'est comme si on dirait. Tu as attiré ton cœur à moi. Ou plutôt, tu as attiré mon cœur à toi. Libavti ni. En France, on dirait tu m'as conquis. Achoti, ma sœur. Kala, la Kala. Libavtini. Comment est-ce que tu as conquis mon cœur? Bahat meinai. Motamo, avec un de tes yeux. Bahad anak, mitsavonaïr. Anak, c'est une perle, c'est un morceau de quelque chose, mitsavonaïr. Tsavonaïr, c'est le collier. On dirait une perle de ton collier, ou un élément de ton collier. Ça, c'est la traduction littérale qui veut rien dire. Alors, on va essayer de comprendre. Rachidi, libavtini, macharta et libelecha. Tu as entraîné mon cœur vers toi, comme on a traduit, tu as conquis. Beachat meinaïr. Lirachi, arbe dougmot tovot. Loule haïta ber et la achat haïti mechaber. Ne serait-ce que beachat, qu'avec un, meinaïr. Ou alors, beachat, ne serait-ce qu'avec un, Anak mitzavoraïr, une perle de ton collier. Rachid dit, qu'est-ce que c'est? Enaïr. On a déjà vu. Aïn. Lorsqu'on parle de l'œil, on fait allusion au verset de la Torah. Vehaya imne eine aeda. Les yeux de l'assemblée. C'est-à-dire les Talmidei Chacham. Donc Dieu dit au peuple juif, tu m'as conquis. Be'achad me'enaïr, ne serait-ce qu'avec un des Talmidei Chacham que tu as connu. Be'achad anak mitzavoraï. Vous savez que le mot anak en hébreu, ça veut aussi dire le géant. Anakim, c'est le géant. En vérité, le mot anak, ça voudrait dire spécial. C'est pour ça que dans le collier, chacun s'appelle anak. Ça désigne aussi le mot géant. Rachidi, avec un des géants de ton collier, un des géants que le peuple juif a produit. Donc si on veut comprendre le verset dans son ensemble, Libavtini achotikala, ma sœur Makala, tu m'as conquis, Beachat me'enaïr, avec un des hommes que tu as produit, Beachat anak mitzavonaïr, avec un des géants, un des gens miyuchad, dit le Midrash. Alors, Midrash, je donne beaucoup d'exemples. Ça peut être Abraham Avinu, ça peut être Yaakov, ça peut être Moshe, ça peut être David, ça peut être Shlomo. Sur chacun, il y a lieu de dire qu'il est le Achat, le Anak Mitzavonair. Ce qui est intéressant surtout ici, c'est que Dieu appelle le peuple juif Achoti, Et il appelle K. Ça, il faut comprendre. Dans le verset précédent, on avait vu Kumila Rayati Achoti, Tamati, Urkhilach, mais il n'y a pas marqué Kala. Vous savez qu'en hébreu, le mot Kala, tout le monde le sait, ça vient du mot Kol. Kol qui veut dire tout, ce qui englobe tout. Achot, qui est le féminin du mot Ach, c'est exactement le contraire. C'est la contraction du mot Echad, qui veut dire une partie. Lorsqu'il y a marqué Anashim Achim Anachon, ça veut dire on fait tous partie de la fratrie, chacun est une partie. Donc il n'y a pas de plus grande contradiction que de dire Achot et de dire Kala. Achot, ça veut dire c'est quelqu'un qui fait partie de tout, d'une famille. Deux frères Achim, Achayot, Achim et Achot. Et le mot Kala. Mais ça va plus loin que ça. Pour une parenthèse, et il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que Shlomo HaMelech, lorsqu'il s'est exprimé dans le Jérusalem, et qui veut exprimer le rapport entre Dieu et le peuple juif, il l'exprime dans un rapport d'amour entre un homme et une femme. Tout le monde sait que il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Vatran Adjar Anessa, que Dai Ayahola, c'est-à-dire le monde, n'a connu un jour aussi important après le Matan Torah que le jour où Shlomo HaMelech a dit le Shir HaShirim. Shir HaShirim, il a été dit le jour où on a rentré le Aaron, on a rentré l'armoire qui contenait le Sefer Torah et l'étape de la loi dans le Beit HaMikdash qui avait été érigé par Shlomo HaMelech. C'est ce jour-là que Yom, c'est ce jour-là où Shlomo HaMelech a écrit le Shir HaShirim. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce Aaron? Alors, il faut voir qu'il y a un aspect extérieur et un aspect intérieur. L'aspect extérieur du Shir HaShirim, si on le lit, ce sont des mots qui désignent des membres, le corps, qui peuvent désigner des choses qui n'ont aucun rapport avec la spiritualité. Si on creuse un peu plus, on voit que c'est le contraire. Sur le couvercle qu'on appelle le kaporet, qui était ce qui couvrait le haron, où il y avait les luchot abrit, il y avait le sefer Torah, il y avait ce qu'on appelle les kruvim. Les kruvim, c'était deux sculptures qui étaient tournées l'un vers l'autre et qui étaient enlacées. Et un des nissim, un des miracles qui existait dans le Tamidash, c'est que bien que ces kruvim étaient en or, il faisait partie du kaporet lui-même, c'est-à-dire du couvert. Il y avait des moments où ils étaient tournés l'un vers l'autre, et il y avait des moments où ils étaient tournés l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Au point que la Gemara dans le traité de Yom a dit, « Bizman chez Israël aussi, Mourtsono chez Makom. » Lorsque le peuple juif, aussi Mourtsono chez Makom, c'est-à-dire se coller à la volonté divine, alors à ce moment-là, les Krovim étaient Meurim Zébazé, ils étaient enlacés là avec l'autre. Zman Shelo Simot Zom Shel Makom. Lorsque il ne faisait pas la volonté divine, alors c'était le contraire. Au point que lorsqu'il y a eu le Chorban Bet Hamigdash, il y a eu la destruction du temple, la Gemara raconte que lorsque les Romains sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, alors ils ont vu les Kerouvim Ourim Zébazé qui étaient tournés l'un vers l'autre. Et ils ont dit, regardez, Bema mitaskim elu. À quoi pensent ces gens-là dans le lieu le plus sacré? C'est-à-dire qu'ils ont rigolé. Ils ont dit, ce sont des choses qui ne devraient pas avoir de rapport avec le sacré. Et c'est quelque chose qui prête à rire de l'extérieur. Si on lit le Shir HaShirim comme ça, alors c'est la même chose. C'est à nous de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle est cette relation qui peut exister entre Dieu et l'homme? Un homme et une femme, un frère et une sœur, qui fait que le peuple juif peut être désigné par Kadosh Baruch Hu avec ces deux termes qui n'ont rien à voir avec l'autre. L'un c'est Kala et l'autre c'est Achot. L'un c'est la fiancée et l'autre c'est la sœur. Alors on va essayer de comprendre. Dans la Torah, les liens du mariage sont désignés par le terme de karov. Ça veut dire, lorsque je me marie avec quelqu'un, moi par rapport à lui et lui par rapport à moi, attrape le terme, le titre de karov, on dirait un proche aujourd'hui. Dans la famille aussi, il y a un titre de karov, le père et le fils. Le frère, la sœur, ça s'appelle Krovim. Ça veut dire qu'il y a un lien qui se tisse d'un même type. Vous direz, c'est la famille. Lorsqu'on se marie, entre des gens étrangers, et entre des gens qui font partie de la même famille. Quelle est la différence entre eux? Ce qu'on appelle la courva, le titre de karov qui est donné par le mariage, du titre de karov qui est celui qui est obtenu dans la famille. En vérité, on dirait que c'est les mêmes liens, c'est que maintenant on s'appelle proche, on est une même famille, on fait partie du même ensemble. On est karov, on est proche. Mais en vérité, les haramis disent autre chose. Ils disent qu'il y a deux façons d'être proche de quelqu'un. Ou il y a une façon d'être proche de quelqu'un. L'ishmor et akayam, qui garde l'existant. Ou il y a une façon d'être proche de quelqu'un pour créer un avenir. Entre un frère et une sœur, la courva, ce titre de karov, c'est quelque chose qui est destiné à garder ce qui existe. On peut être issu des mêmes parents, n'avoir aucune affinité. Le lien qui s'appelle karov, c'est le lien qui fait que on reste proche alors qu'on ne peut rien avoir. À voir ensemble. Mais on reste proche, pourquoi? Parce que c'est ce lien-là qui garde ce qui existe. On est des frères. Le lien de karov qui se crée par le mariage, c'est le contraire. C'est pas pour garder ce qui existe, c'est pour fonder quelque chose qui n'existe pas. Quelle est la différence entre fonder quelque chose qui n'existe pas et garder quelque chose qui existe? C'est que le fondement de quelque chose de nouveau, ça se fait, on va pas dire seulement dans la pudeur, mais dans l'intimité. Garder quelque chose qui existe, c'est le contraire. C'est créer un lien qui fait partie de quelque chose de social, mais qui n'a rien d'intime. On va dire, un, c'est du domaine public, et l'un, c'est du domaine privé. Lorsque l'on dit « achoti », ah, j'ai aucune raison de dire que ma femme, c'est ma sœur. J'ai non plus aucune raison de dire que ma sœur, c'est ma femme. Si on détermine le lien de ces deux façons-là, c'est qu'il y a quelque chose d'existentiel. Il y a quelque chose qui a été fondé depuis l'origine. Et qui fait que ce lien-là, c'est un lien qui doit être protégé par la notion de « ach » et « achot ». On est chômeur, on garde ce qui existe et on le détermine en tant que karov. On a quelque chose qui est commun et c'est ce qui crée notre kouva, qui crée notre rapprochement. Cette kouva, elle est donc destinée de mettre en exergue le lien qui existe depuis l'origine commune. Donc je suis une partie de quelque chose, on appelle ça « ach ». Un lien qui se crée nouvellement et dont le but c'est l'avenir, mais qui n'a pas de référence au passé, ce lien-là, on va l'appeler « kala ». Ça veut dire que nous, dans notre terminologie, il est impossible d'être en même temps « achot » et « kala ». Parce que « achot », c'est préserver le passé, préserver une origine, donner un sens à une origine commune, donner un sens au fait qu'on est issu des mêmes parents, donner un sens au fait qu'on fait partie de la même famille. Alors que se marier, c'est le contraire. C'est pas donner un sens à quelque chose qui existe, mais c'est donner un sens à quelque chose qu'on veut créer. Donc il n'y a pas plus loin l'un de l'autre que le terme de Kala et le terme de Achot. Pire que ça. Le terme de Ach et de Achot, c'est que la légitimité du lien est qu'on est chacun une partie du tout. Comme on dit, les fils de Yaakov à Yosef. Allo, Anashim, Achim, Anachno. On est tous les mêmes. On est des frères. On fait partie du tout. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Tu veux prendre un frère, l'autre frère. On est Anashim, Achim. Chacun est l'un du tout. Mais en ce qui concerne la terminologie d'une famille qu'on veut créer, on appelle l'autre le tout. Il n'est pas un de tout, puisque ce tout n'existe pas. C'est l'autre qui fait tout. Donc non seulement dans l'étymologie hébraïque, c'est le contraire. Là, on l'appelle tout, alors que là, on l'appelle une partie. Mais on voit bien que dans la nature des liens, c'est exactement le contraire. Viens à Kadosh Baruch Hu, il appelle le peuple d'Israël, Achoti, Kala. Kala, lorsqu'on dit le tout, ça veut dire c'est quelqu'un dans lequel on investit. C'est quelqu'un qui me donne, on va dire, un autre lieu. On va oublier pour l'instant qu'on est une partie de quelque chose. Et on va créer un nouveau lien. C'est pour ça que la Kala, elle s'appelle Kala Minashon Kol. Ici, tu n'es pas une partie. Ici, tu es tout. alors comment est-ce que je peux être en même temps une partie et tout? Si j'ai dit ma sœur, ça veut dire que je reconnais que je suis une partie d'une fratrie. Et si je dis ma cala, c'est pas du tout le même sens. Un s'est tourné vers l'avenir, alors que l'autre s'est destiné à protéger ou à donner une suite à un passé. Le vrai malheur dans la vie, c'est qu'on traite la Kala comme une sœur. Ça veut dire, on croit que le mariage, c'est quelque chose qui existe. Et après, on protège le Kayam, alors qu'il n'y a rien. Donc, quelquefois, on se trompe de sens. Et on croit qu'en entretenant quelque chose qui a existé une seconde, on arrive à créer quelque chose, alors que c'est faux. C'est l'échec type du mariage. L'échec type du mariage, c'est celui qui se conduit avec son conjoint comme avec un frère ou une sœur. C'est-à-dire que le lien est destiné à protéger ce qui existe. Mais il n'existe rien puisque tu es en train de créer quelque chose. Ce que tu as créé hier, c'est pas un lien qui vient, on peut dire, du hasard et qui doit être protégé par la fratrie. C'est quelque chose qui doit avoir un sens vers l'avenir. On pourrait dire de même, quelqu'un qui voudrait faire sa vie avec sa sœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de se tromper de direction. Avec une sœur, on a des souvenirs en commun. Avec une sœur, on a une entraide qui fait qu'on fait partie d'un tout. Mais on ne fonde pas quelque chose. On protège le lien. On fait partie d'un tout. Si HaKadosh Baruch Hu désigne le peuple juif en tant que Eachoti et Kalati, ça veut dire qu'il y a un double lien. Il y a un lien qui vient du passé et il y a un lien qui est tourné vers l'avenir. Le lien qui vient du passé, il est évident. C'est que l'origine de l'homme, c'est Dieu. Ça veut dire que dans ma relation avec HaKadosh Baruch Hu, je dois tenir compte de cette protection du passé. Il ne m'a pas créé pour rien. Quelque part, il y a quelque chose qui a prédestiné, m'a destiné, et que je dois protéger, qui existe. J'ai été propulsé ici à cause de quelque chose qui était commun avant. Nous, on dit on faisait partie du tout. Les autres, ils vous diront Dieu est dans tout. C'est pas très important comment on le définit. Mais en tout cas, on est le produit de quelque chose qui était commun. Pire que ça, les Chachamim se servent d'un langage en ce qui concerne la Neshama, en ce qui concerne ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que la neshama, l'âme? Man de apach, midilein apach. Celui qui a insufflé, il a insufflé un peu de lui. Je possède en moi quelque chose de ce souffle divin. Parce qu'on ne peut pas gonfler l'autre si on n'a pas investi ne serait-ce que de l'air. Mais au moins, il y a quelque chose de toi qui gonfle l'autre. Man de apach, midilein apach. Celui qui a investi, il a investi un peu de lui. Donc l'origine, elle a quelque chose de commun. Mais tout le monde comprend bien que la vie, elle n'est pas faite pour respecter seulement un projet qui est commun, ou une origine commune qui a éclaté en deux. Mais elle est faite pour construire quelque chose de commun. C'est pour ça qu'il existe une expression dans la Gemara qui est Oraita, la Torah. Kutcha Berichu. Dieu. Ve Israël, et Israël. Chadou. Chadou. Il faut dire, c'est unifié. On ne peut pas dire que c'est la même chose, mais presque. Il y a la même chose dans chaque. S'il y a la même chose dans chaque, c'est vrai que ça va se retrouver dans un état différent que c'était à l'origine. Mais ça va se retrouver dans la même proximité que c'était à l'origine. Et c'est ça le but de la vie de l'homme. C'est pour ça que, venant de Dieu par rapport au peuple juif, il ne peut pas commencer en disant Kalati, il est obligé de commencer en disant Achoti. C'est-à-dire qu'on possède tous les deux, et le bon Dieu, moi, quelque chose de commun. Kalati. On va dire on est condamné par le projet divin à construire quelque chose de commun. Moi, je ne peux pas sans lui, il ne peut pas sans moi. Alors, il est obligé d'appeler le peuple juif, Kalati. Le problème est de savoir comment est-ce qu'on peut respecter ces deux choses-là en même temps. Parce que construire quelque chose de commun, ça veut dire prendre deux étrangers et les rassembler. Respecter la fratrie, ça veut dire prendre deux frères et ne pas les séparer. Ça veut dire que le lien que j'ai vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il est double. Il y a quelque chose qui est de la même origine que je dois respecter et ne pas séparer. Il y a quelque chose qui est différent et que je dois construire. Ce qui est de la même origine et que je ne dois pas séparer, c'est que j'ai en moi ce souffle divin que je dois respecter. Je dois me définir par rapport à lui. Ça, c'est l'ishmor et takaya. C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas se salir. J'ai quelque chose en moi que je ne dois pas dénaturer et qui existe déjà. Quelquefois, ça peut être défini comme la mitzvah lotaase, négative. Il y a des choses que je ne dois pas faire parce que je dénature ce lien de Ach avec Akadosh Baruch Hu. Parce que j'ai en moi quelque chose qui ne supporte pas le vulgaire. Et d'un autre côté, il y a quelque chose à construire qu'on pourrait appeler la mitzvah positive, mitzvah tassée, qui est que l'homme est un devenir qui se rapproche le plus possible de cette volonté auquel il doit accéder, qui est la volonté divine. Mais on va aller plus loin encore. Même dans un couple dont on a dit qu'il serait dommage de considérer une kala comme une achot, et il est très dédommageable de considérer une achot comme une kala. Parce qu'on ne respecte pas l'ordre des choses. Il y a quand même un sens de achot dans le sens de kala. Et on va essayer de comprendre comment. Si ce qui unit un couple, c'est simplement ce qui unit un frère et une sœur, c'est-à-dire de protéger un lien extérieur auquel on va donner un sens. On ne peut rien construire avec ça. Pourquoi ? Parce que ce lien extérieur n'existe pas. C'est pas parce qu'on est passé devant le rabbin ou à la mairie qu'il y a eu un événement nouveau qui s'est créé, qui a une telle force, qu'on puisse, en le respectant ou en le valorisant, donner un avenir. Alors que lorsqu'on est né dans la même famille, c'est ce lien-là qu'on va essayer de protéger, auquel on va essayer de donner un sens. Mais le lien du mariage, c'est le contraire. C'est une possibilité d'avenir commun. Donc il ne s'agit pas de protéger ce qui existe, puisqu'il n'y a rien qui existe. Il n'y a que ce qui peut se construire. C'est la raison pour laquelle tous les couples ont besoin de chidouche. On a besoin de renouvellement. On a besoin de se fabriquer des souvenirs. On a besoin de se fabriquer quelque chose d'ensemble. Si on n'arrive pas à le fabriquer, on ne peut pas se projeter la vidéo du mariage toute sa vie. En se disant combien on est content et combien on respecte le mariage, ça ne veut rien dire. On va aller plus loin encore. Si la seule raison pour laquelle un mari reste avec sa femme ou sa femme reste avec son mari, c'est parce qu'il respecte le mariage, c'est insultant comme lien. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas l'autre, on respecte un lien. Mais le lien n'existe pas. On ne veut même pas qu'il existe. Pourquoi ? Parce qu'on veut que l'intérêt réciproque crée ce lien. Mais on ne veut pas qu'il soit créé par le passage devant le rabbin et que ce soit ça qu'on respecte. Alors que chez les deux frères, on s'attend que l'autre respecte le fait qu'il a un frère. On s'attend à ce qu'il donne un sens à ça. Tu as un frère, eh bien, c'est l'occasion maintenant de manifester. Tu as un frère, c'est l'occasion maintenant de te conduire en frère. Donc c'est exactement le contraire. Ça veut dire que tout ce qui concerne la projection vers l'avenir ne supporte aucun lien extérieur qui viendrait donner un sens. C'est l'intérêt que l'autre me porte ou l'intérêt que je porte à l'autre qui crée le lien. Alors que dans les frères, c'est le lien qui crée l'intérêt que l'on porte l'un à l'autre. On serait vexé si un frère ne trouve comme nécessité de lien que l'intérêt qu'il apporte. Ça veut dire que si par hasard on s'entendait moins bien ou il avait moins d'intérêt, je ne pourrais plus compter sur lui. C'est pas ça que j'attends. Pourquoi ? Parce que le problème dans la vie, une fois qu'on est propulsé dans cette vie, c'est que on ne peut pas être seul. Non seulement on ne peut pas être seul et on ne supporte pas d'être seul. Parce qu'on a déjà dit que celui qui est seul, il est enfermé dans une prison. Et que ça n'est que le contact avec l'autre qui lui donne la vie. Parce que si on s'imaginait qu'il n'y ait rien en haut, rien en dessous, rien de côté, et qu'on était seul, 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 on est dans la plus grande prison. Il suffit qu'on me mette quelqu'un en face, et je commence à acquérir une certaine liberté, que j'appelle la vie. L'autre, je peux me disputer avec lui. Je ne peux pas me disputer. Je peux faire tout ce que je veux, mais moi je peux. Si je suis seul, je peux rien. C'est-à-dire que l'homme, par définition, pour pouvoir vivre, il a besoin d'un lien qui fait qu'il n'est pas seul. Seulement quoi ? Il a besoin de deux sortes de liens. Il a besoin d'un lien de sécurité qui fait qu'il peut compter sur quelque chose dont il n'est pas obligé d'entretenir tout le temps. Il a besoin d'un lien qu'il est d'accord d'entretenir tout le temps, parce que ça lui donne un avenir. Celui qui se trompe et qui recherche la sécurité dans le lien que va lui donner l'avenir, il a pris sa femme pour sa sœur. Celui qui va voir sa sœur parce qu'il l'apprécie, il a pris sa sœur pour sa femme. Parce qu'il y a deux sortes de liens que l'homme veut avoir à chaque instant. Il veut avoir sur quoi s'appuyer, avoir une base selon laquelle il peut se définir. Et là, il est obligé d'avoir quelqu'un d'autre qui lui dise, tu es beau, tu es gentil, tu es intelligent, tu es bien, tu n'es pas seul, tu as de la valeur, on s'occupe de toi. Si t'arrive quelque chose, on pense à toi. Mais il a besoin aussi de quelqu'un avec lequel il peut construire quelque chose de nouveau, pas simplement être sûr de lui par rapport à l'existant. Et là-dedans, il faut toujours qu'il y ait du nouveau. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'existant. Mais pour qu'il puisse vivre, il a aussi besoin de ça. Il a non seulement besoin d'occulter cette solitude qui fait que si vraiment je me sens seul, absolument seul, je ne vois pas du tout quel appui je peux avoir, alors je tombe, c'est la première chose. Et surtout que s'il se sent seul, même s'il a des appuis, et qu'il voit qu'il n'arrive pas à construire un avenir. Donc lorsqu'on dit Kala, c'est dans le sens de tout. C'est-à-dire c'est dans le sens de l'investissement. L'avenir, on ne peut le concevoir que si on a quelqu'un qui vous procure de nouvelles libertés à chaque instant. La liberté d'être gentil ou méchant, la liberté d'être créatif ou d'être négatif. Toutes les libertés dont l'homme a besoin pour s'épanouir, il est obligé qu'il y ait quelqu'un en face de lui et qui lui crée ses libertés. S'il n'a pas, alors il n'a pas de Kala. Il n'a pas de Kala, il n'a pas d'avenir. S'il réfléchit, il va voir que le lien qu'il peut avoir avec son conjoint, il est restrictif par rapport au lien qu'il peut avoir avec un Kadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est palpable. Alors que le lien qu'il peut avoir avec un Kadosh Baruch Hu, il est difficilement palpable. Mais en vérité, il est de la même nature. C'est pourquoi les Chachamim nous disent que la Ahavat HaMakom, l'amour que l'on peut avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de passer par l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis des hommes. Ça n'existe pas quelqu'un qui aime le bon Dieu qui n'aime pas les hommes, c'est pas possible. Parce que toute l'idée qu'il peut avoir de Dieu, elle passe par l'idée qu'il peut avoir des hommes. Mais le contraire est vrai aussi. C'est vrai que celui qui n'aime pas les hommes, il n'aime pas Dieu. Mais celui qui n'aime pas Dieu, il n'aime pas les hommes non plus. Donc il faut comprendre qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut me donner cette sécurité du passé qui fait qu'il peut appeler le peuple juif Ach. Et qui peut me donner une potentialité de l'avenir qui fait qu'il appelle le peuple juif Kala. Maintenant que dans notre monde, ça a été créé et ça a été montré d'une façon naturelle par l'intermédiaire du Ach et de la Kala, c'est pas grave. Parce que nous, on ne sait pas vivre avec le bon Dieu. On sait vivre avec les hommes. Mais en vivant avec les hommes, en vérité, on vit avec le bon Dieu. On va jusqu'où ça va. Au moment où le Beth Amidash a été détruit, tout le monde se serait attendu que ces kérouvim auraient dû être tournés chacun de leur côté. Et pourtant, ils étaient tournés l'un vers l'autre. Ça veut dire qu'une catastrophe. Elle peut être, au moment où elle s'abat, un lien et non pas une cause de différence. On va essayer de comprendre pourquoi. Plus je suis proche de quelqu'un, et plus il me montre qu'il ne me comprend pas. Ou qu'il n'a pas besoin de moi, le contraire. Et plus ça crée de l'effervescence. Moins je suis proche de quelqu'un, et plus l'éloignement qui me manifeste, ou les moindres que moi je manifeste, passe dans l'indifférence. À partir du moment où on se bagarre, c'est qu'on a quelque chose qui nous tient tellement à cœur qu'on essaie de régler la situation par la bagarre. C'est peut-être pas le meilleur des chemins, mais quelquefois il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que le paradoxe est que je ne me bagarre pas avec quelqu'un dont je pense que de toute façon il ne me comprendra pas, ou il n'entendra pas mes arguments, ou le fait que je me fâche lui est indifférent. Je commencerai à me fâcher, et je commencerai à montrer mon mécontentement, seulement si je sais qu'il en tient compte, et que c'est un argument de rapprochement. Mais si c'est le contraire, au contraire, je vais faire le gentil. Ça veut dire que je n'accepte pas de quelqu'un qui est proche ce que je peux accepter de quelqu'un qui est loin. Je m'en prendrai à quelqu'un qui est proche, alors que quelqu'un qui est loin, je trouverai très honorable dans cette situation. Pourquoi ? Parce que ça ne me touche pas. Parce que je n'ai pas la même évaluation des choses. Lorsque ceux qui ont détruit le Bétamigdash sont rentrés dedans, il fallait qu'ils comprennent une chose. C'est que si Dieu s'en est pris au clan d'Israël, c'est qu'il avait une intimité telle avec lui qu'il pouvait se permettre de lui montrer qu'il y a une voie à suivre. Et quelquefois on ne peut montrer cette voie qu'en se mettant en colère. Mais l'autre, on ne va pas prendre la peine de lui montrer ça, parce que les liens ne font pas. Quand on lui montre en ces facettes-là, ça change quelque chose. Et là, on a de nouveau l'exemple du Ach et de la Kala. Si je me mets en colère contre mon frère, c'est parce que j'attends quelque chose de lui, j'attends quelque chose de moi, qu'on n'est pas d'accord sur la place que chacun doit avoir dans cette relation-là. Si entre conjoints on se bagarre, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le type d'avenir à avoir ou la façon de construire les choses. C'est-à-dire que c'est le lien qui crée la tension. C'est le lien qui crée le besoin d'essayer de secouer l'autre pour qu'il vous comprenne. Mais s'il n'y a pas ce lien-là, je ne me bagarrerai jamais avec mon frère pour une chose qui concerne mon avenir, qui concerne ce que je suis en train de construire. Parce que pour ça, je n'ai pas besoin de lui. Je me bagarre avec lui pour une chose qui concerne ce qu'on doit préserver, les liens de la famille. Je ne me bagarrerai pas avec mon conjoint. Pour des choses qui ne concernent pas, hein. Ce qu'on a mis ensemble. De commun pour construire. Donc plus je projette un avenir commun avec quelqu'un, et plus j'ai des exigences, parce qu'il fait partie de ma sphère. Et chaque fois que ces exigences n'arrivent pas à être satisfaites, il y a de la tension. Toute tension entre Akadosh Baruch Hu et les peuples juifs, c'est une remontrance pour celui qui ne fait pas partie du peuple juif. C'est de lui montrer ce que Akadosh Baruch Hu, il a à qui s'en prendre. Ça veut dire il a à qui s'adresser. S'il est indifférent vis-à-vis de toi, c'est que tu es trop éloigné dans le projet pour que ça en prenne à toi. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'au moment où c'était la destruction de Beth Amikdash, les chérubins étaient tournés l'un vers l'autre. Ça veut dire que c'était un moment d'intimité entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est pas un moment d'éloignement, c'est un moment de proximité. Sinon, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'eux ont vu? Ils ont rigolé. Ils ont regardé quoi ils s'occupent les juifs. Un couple qui a l'air d'un homme, l'autre qui a l'air d'une femme, ils sont enlacés, ils n'ont rien à penser, ces gars-là. Pourquoi? C'est parce que il n'y a pas la perception de ce lien-là. On va aller plus loin encore. Elle est diamétralement opposée à la façon dont on exprime son affection vis-à-vis de sa famille. Si on l'exprime dans l'intimité vis-à-vis de sa famille, il y a quelque chose de trouble et d'anormal. C'est quelque chose qui doit être fait au grand jour. Lorsqu'il s'agit du conjoint, c'est le contraire. Plus c'est fait au grand jour, et plus c'est anormal. Pourquoi? Parce que un, c'est un lien qui vient de l'intérieur à l'extérieur, alors que l'autre, c'est un lien qui vient de l'extérieur à l'intérieur. Dans le couple juif, il n'y a aucune manifestation d'affection extérieure. Ça n'existe pas. Ces manifestations-là, elles sont réservées aux ach et aux achot, à la famille. Mais elles ne sont pas réservées aux conjoints. Le contraire, si ça se passe dans l'intimité, avec la famille, alors c'est qu'il y a un problème sérieux. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que ce qui existe et qu'on préserve, c'est extérieur. Et on va lui donner un contenu intérieur. Donc la façon de l'exprimer, elle doit être extérieure. Ce qui se construit, c'est de l'intérieur. Si on donne un contenu extérieur, ça veut dire que on donne fait et acte à ce qui existe. Il n'y a rien qui existe. Il faut créer. Et si tu montres que ça existe, ça veut dire que tu protèges les acquis, mais il n'y a jamais d'acquis. On ne peut pas vivre de souvenirs. Il n'y a pas de couple qui reste ensemble à cause des souvenirs. Il faut du nouveau. Et si ce nouveau peut exister d'une façon extérieure, c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est impossible dans la réalité de comment les chachamim conçoivent les liens entre les conjoints, qu'il y ait la moindre expression d'intimité qui se passe à l'extérieur. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose d'extérieur, donc qui existe. Dans le sens contraire aussi, c'est jugé comme très grave. Ce c'est la raison pour laquelle le clan Israël, pour l'instant, a réussi à peu près à préserver la famille. C'est-à-dire que quoi ? Que l'inceste, c'est très quelque chose qui est très rare chez nous. Mais c'est quelque chose qui est commun pour les autres. Le fait que le couple éclate, c'est quelque chose qui est très rare dans le peuple juif. Et c'est quelque chose qui est commun chez l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on a mélangé les deux choses. Ces deux choses, elles doivent ne pas être mélangées au point que tous les conseils qu'on est obligé de donner aux gens pour préserver leur couple, ça doit être naturel chez un juif. C'est-à-dire que le divorce a toujours été quelque chose de archi-exceptionnel et qui n'est causé que par des choses graves. Lorsque c'est causé par des choses qui ne sont pas graves, ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce que c'est que la famille ? On a mélangé les deux. On croit que parce qu'on vit avec quelqu'un, il y a une réalité et on va préserver cette réalité. Il n'y a rien qui existe. Dans la famille, il y a quelque chose qui existe. La recherche du bonheur tel qu'elle est vue à l'extérieur, c'est juste le contraire. Ce qui existe, c'est pas intéressant. Je ne vais pas me laisser enfermer, moi, par des liens de parenté. Ça n'existe pas. 18 ans, on s'en va. On n'a plus rien à voir avec les autres. On dit la famille, on la supporte. On n'est pas obligé de supporter. Et si on ne la supporte pas, alors on crée des nouveaux liens avec la famille. Et ça casse toute la famille. Au point qu'aujourd'hui, les gens vous disent, c'est bien l'éclatement de la famille, c'est pas bien qu'on reste en famille. Pourquoi ? Parce que le fait de rester trop en famille, ça provoque l'inceste. Et l'inceste, c'est l'abus dont on sent qu'il y a toujours une victime. Chez nous, c'est le contraire. Dans le sens contraire, c'est la même chose. Puisqu'il faut créer du nouveau, alors il faut aussi trouver quelqu'un de nouveau. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'on veut construire quelque chose de nouveau, c'est qu'on a toujours trouvé du nouveau. Quand quelqu'un je lui reproche, je lui dis quoi, tu parles de divorce, qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui dis, on ne parle pas de divorce. Mais je ne prends pas la voiture, vous la changez tous les combien ? Elle est encore en bon état. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les goûts, lorsqu'ils sont satisfaits, ils s'estompent. On est obligé d'en avoir de nouveau. C'est-à-dire qu'on trouve naturel d'utiliser l'autre. Alors si on l'utilise, il faut en changer. Parce qu'on trouve plus le même goût. Ici, il y a marqué que c'est tout à fait dans un autre sens. Maintenant, on essaie de comprendre pourquoi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ce soit important que ce soit Achoti et Kalati. Vous savez que chaque homme a besoin d'un avenir. Et son avenir, c'est lui. C'est son devenir. Chacun se dit, qu'est-ce que je vais devenir ? Alors, il y a la basse pression, ce que je vais devenir, c'est-à-dire ce que j'ai toujours à manger, est-ce que les petits soucis de la vie. Qui sont à plus haute pression. Qu'est-ce que je vais devenir ? Il faut que je grandisse, que j'absorbe du nouveau. Et encore plus haute pression. Chacun a besoin d'un devenir. Ce devenir, on l'a dit, il est impossible sans un conjoint. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va me donner la liberté. Si je suis seul, je n'ai pas de devenir. J'ai bien compris que si j'utilise le travail, ça ne suffit pas. J'ai bien compris que j'utilise les loisirs, ça ne suffira pas. Il faut quelque chose de plus important. Mais j'ai aussi besoin d'une sécurité. C'est-à-dire que je peux me soucier du devenir quand je me sens bien, quand je me sens en sécurité. Donc j'ai aussi besoin de savoir d'où je viens et que de là où je viens, je suis protégé aussi. Donc c'est ça Achoti et c'est ça Kalati. Dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Sitre Torah, c'est-à-dire les choses qui sont la profondeur, les secrets de la Torah, et il y a ce qu'on appelle l'extérieur de la Torah. C'est très compliqué parce que dans l'extérieur, il y a l'intérieur, et dans l'intérieur, il y a l'extérieur aussi. À partir de quand on sent qu'on grandit ou qu'on sent qu'on perçoit de quelque chose de nouveau, à partir du moment où on sent qu'on comprend et qu'on perçoit de nouvelles choses. Je peux apprendre une halakha, je peux apprendre un midrash, je peux apprendre n'importe quoi. Je l'ébrute lorsque je commence à comprendre, à relier les choses l'une à l'autre, à voir les principes qui sont sous-jacents, à voir comment ça s'articule. Alors je sens paradoxalement que moi je grandis, alors que je ne grandis pas, j'absorbe quelque chose de nouveau. Ce que j'absorbe de quelque chose de nouveau, ça me comble au point que je pense grandir, et ça suffit. Pourquoi ? Parce que paradoxalement, la perception que j'ai des choses qui n'est qu'une perception, donc c'est de l'extérieur. Ça retentit chez moi, comme si c'était moi. Donner un exemple. Il y a des gens qui voient un film ou ils lisent un roman, ils se prennent pour le héros, ils se prennent pour la victime, ils se prennent, je ne sais pas pourquoi ils se prennent. C'est bien ou c'est mal? D'un côté, pourquoi tu lis le roman si ce n'est pas pour te prendre pour là où... Ça n'a pas d'intérêt. Ça sort encore une histoire. Tu vois des choses toute la journée, des images et des images. Tu entends. À partir de quand je me sens impliqué, à partir de quand je sens qu'il y a quelque chose qui a changé chez moi, lorsque je comprends l'intérieur, lorsque ce qui sous-tend les choses, j'arrive à les percevoir. Si je perçois que de l'extérieur et je m'identifie bêtement, ce sera bête. Il y a des gens qui lisent un roman, ils pleurent. Pourquoi ? Parce qu'ils s'identifient tellement. Mais attention ! Peut-être que grâce à ce roman-là, ils sont devenus plus sensibles à certaines choses. Et c'est pour ça qu'ils pleurent. Peut-être que s'ils n'avaient jamais lu ça, et qu'on leur... ils n'auraient pas perçu certaines choses. Ça veut dire que la perception qui est donnée extérieure, je suis comme un spectateur, je perçois, elle fait que j'assimile des choses qui vont faire partie de moi, et qui, même si ça a l'air bête parce que je le pleure en lisant le roman, en entendant l'histoire, en voyant le film, ça peut être tout à fait positif parce que grâce à ça, je suis devenu sensible à quelque chose que je n'imaginais même pas, dont je ne pouvais même pas savoir l'existence. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un enfant et vous lui faites entendre la cinquième de Beethoven. Au bout de 2 minutes, tu vous dis arrêtez le carnage. Ça tape, ça sonne, ça truc. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, à la fin, il va voir qu'il y a différentes mélodies qui s'articulent, qu'il y a différents instruments. Il va pouvoir percevoir un instrument sans entendre le reste. Un deuxième instrument sans entendre le reste. À la fin, il va pouvoir percevoir chaque instrument à part, tout en entendant tout le reste. Chose qu'il ne s'est jamais imaginé pouvoir faire. C'est-à-dire qu'il a acquis une nouvelle perception. Ça veut dire que je ne suis pas simplement spectateur et je vois, il n'y a rien qui reste. Plus je vois, plus je comprends, plus je perçois, et plus j'ai de nouvelles formes de perception qui font que je perçois dans les choses tout à fait autrement. Prenez un exemple. La première fois que quelqu'un fait de la Mishnah, il est une Mishnah. Il a un dîme. Il ne s'imagine pas qu'il y a 1000 questions sur cette Mishnah. Il commence à gmarer, il commence à voir. C'est vrai, je n'ai pas fait la relation qu'entre le début et la fin, il y avait un cas où ça coince. Entre ceci et cela, il y a une question. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'habitude de réfléchir de cette façon. Mais une fois que j'ai fait plusieurs fois la gmarah, et que la gmarah me montre comment il y a des différences entre le début et la fin de la Mishnah, combien un dîme coince un autre, combien on est obligé de comprendre les choses, automatiquement quand je vais lire une Mishnah, je commence à dire, là, ça coince, là, ça marche pas, là, ça se suit, là, ça se voit. Et je vais pouvoir moi-même, c'est-à-dire que je vais acquérir une nouvelle perception. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des spectateurs qui emmagasinent des sensations. On est des gens qui changeons selon les sensations. Ça veut dire que je dois me créer un environnement qui fait que grâce aux libertés que me donne l'autre, je vais arriver à changer. C'est ça ce qu'on appelle l'avenir. On doit s'attendre à ce que quelqu'un, au cours des années, il raisonne autrement, il réfléchit sûrement autrement, mais il perçoit autrement, il a une autre sensibilité, il n'a plus rien à voir avec avant. Sinon, on ne sait rien du tout. On va aller pire que ça. Peut-être pour percevoir ne serait-ce que quelque chose dans le Olam Haba, j'ai besoin d'avoir un degré de perception tel que ça n'a rien à voir avec ce que je suis brut ici. Et que c'est en affinant que tout doucement, j'arriverai peut-être un jour où je pourrai poser une question intelligente au bon Dieu. C'est une chose qu'on ne peut pas comprendre. On raconte que le grand de Vilna, il avait dans son tiroir un devant-toi. Un jour, quelqu'un l'a vu, il a refermé tout de suite le tiroir. Il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, ça, c'est lorsque j'arriverai dans les d'en haut. Ça, ce sera mes premières questions, c'est la première question. Ce qui est angoissant, c'est qu'il y a marqué que chaque homme, on lui laisse 40 jours et 40 nuits pour s'exprimer et dire tout ce qu'il a comme question à poser et comme réponse à apporter dans tout ce qu'il a vécu dans l'organisation. Il y en a qui disent 150 jours. Déjà 40, c'est énorme. Ça veut dire qu'on doit avoir des nouveautés à apporter. On doit pouvoir parler avec des gens qui y ont réfléchi. Et on doit pouvoir percevoir des choses qui font qu'on est quelqu'un d'intéressant. Sinon, pourquoi on nous laisserait du temps? Alors, encore pour le grand de Vilna, lui, il savait déjà de quoi il avait parlé avec le bon Dieu. Parce qu'il savait qu'on ne pourrait pas lui dire, non, ça c'est bête, t'as rien compris, en 2 minutes ils vont lui expliquer. Ça, il sait qu'ils allaient mettre 40 jours pour discuter. Ça veut donc dire que chaque instant, même s'il n'est pas le grand de Vilna, qu'un jour il est obligé de rencontrer le bon Dieu, et qu'il doit quand même être quelqu'un d'intéressant, parce que le bon Dieu s'est intéressé à lui, au point de lui donner tout ce qu'il avait besoin dans sa vie. On a raconté, si quelqu'un veut savoir son importance, alors il doit faire le compte. Combien de moyens le bon Dieu a mis en œuvre et met en œuvre chaque jour pour qu'il vive? C'est incroyable. On avait dit, il y a deux façons de comprendre. Une façon de comprendre, c'est ce que la grand-mère a dit dans le traité de Sanhedrin. Elle dit, l'onivra olam elabishvili. Je dois penser que le monde entier a été créé que pour moi. C'est difficile à comprendre. Imaginons, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est une multinationale à lui seul. La preuve, il a des chaussures d'Italie, des chaussettes d'Angleterre, un costume français, une chemise de Taïwan, la cravate de va savoir où. Il y a le monde entier qui travaille pour lui. Un jour m'a dit, lorsque on ira devant le Bédine d'en haut, d'abord on vous montrera tous les moyens qu'on a mis en œuvre. Et quand on vous montrera, il m'a dit, chacun il sera comme sur le quai d'une gare, il va passer des trains, un wagon, deux wagons, trois wagons. Au bout du 60e wagon, il va demander, qu'est-ce que c'est ça? On va lui dire, tu vois, ça c'est ce que tu as consommé. Et les portes des wagons ont commencé à s'ouvrir. Alors, là, il y a 275 kilos de pâte. Là, il y a 70 tonnes de pain. Là, il y a 25 tonnes de fromage. Je veux dire quoi, moi, un petit comme ça, je suis arrivé à... Dis-moi, tu as eu au moins 20 000 ouvriers à ta disposition. Sinon, c'était impossible de fabriquer tout ça. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que si on a tellement investi dans un petit bonhomme, c'est qu'il y a quelqu'un au monde qui a de l'intérêt pour lui. Alors tous les autres qui ont de l'intérêt, c'est toujours un intérêt qui est leur intérêt. Le seul dont je sais que l'intérêt, c'est le Shem Shamayim, c'est le bon Dieu. Parce que lui a vraiment l'intérêt pour moi. Pourquoi? Parce qu'il me donne, et pour l'instant, il n'a pas encore valorisé l'investissement, et il n'arrête quand même pas de donner. Les relations qu'on a avec les frères et les sœurs, les relations qu'on a avec son conjoint, elles ressemblent aux relations qu'on a avec le bon Dieu. Si on se rend compte qu'on investit dans son conjoint investit, et qu'on est à chaque instant en demandant des dividendes, c'est qu'on n'a pas une relation saine avec le bon Dieu. Parce que le bon Dieu ne t'a pas habitué à toucher des dividendes tous les 5 minutes. Alors pourquoi tu l'as demandé des dividendes toi tout le temps? C'est-à-dire que tu es habitué à une relation qui n'est pas saine. Tu n'as pas l'habitude de la relation avec le bon Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt, qui est proche de ce qu'on pourrait appeler une dimension plus spirituelle de la vie, la façon dont il se conduit avec ses proches, on remarque qu'elle a la même dimension. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps là à exiger. Et il se rend compte combien il bénéficie de la présence de l'autre. Et l'investissement qu'il est obligé d'investir, parce qu'il ne faut pas croire que c'est facile, ça lui fait plaisir. C'est quelque chose dont il investit avec plaisir. Parce que il se rend compte que la relation qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme avec une sœur ou comme avec un conjoint, et que cette relation-là, elle peut le combler. Donc lui aussi, il arrive à prendre en charge l'autre et essayer de construire avec l'autre quelque chose dont le fait de prendre en charge, ça le comble aussi. Parce que finalement, c'est vrai que le monde est investi, mais quel résultat? Alors peut-être avec le Gond de Vina, il y aura un résultat. Mais avec moi, il ne faut pas espérer grand-chose. Bien, plus quelqu'un pense que le monde, il n'a pas besoin d'espérer grand-chose pour lui, et moins dans la vie, il espère grand-chose des autres. Moins on se rend compte de ça, et plus on est égoïste. C'est pour ça que même Avraham Avinu raconte le Midrash. Qu'Avraham Avinu, pourtant, il avait 4 portes ouvertes de chaque côté pour que chaque personne qui passe ne se gêne pas de rentrer. Et pourtant, un jour, il a mis quelqu'un à la porte. Pourquoi? Il raconte le Midrash qu'un homme qui est venu et lui a donné Mahal Shel Grissim. Mahal Shel Grissim, ce qu'on dit aujourd'hui, il a donné des lentilles. L'autre lui a dit, non, moi je ne mange pas ça, moi j'ai un estomac qui ne supporte pas ce genre de choses-là. Est-ce que tu n'as pas du pain blanc? Avraham Avinu lui a dit, t'es pas content, tu t'en vas. Voilà ce que j'ai à te donner. Et l'homme est parti, il est allé dans le désert, il a eu faim, il a pleuré. Akadosh Baruch Hu est apparu à Avraham Avinu, il a dit, qu'est-ce que tu as fait à celui-là? Il lui a dit, mais il est insupportable. Akadosh Baruch Hu lui a dit, si moi je le supporte, ça veut dire qu'on peut le supporter. Ça veut dire que l'autre est insupportable. C'est une décision unilatérale que j'ai prise. Et donc je pense que pour mon espace et mon équilibre, l'autre est insupportable. Mais si je ne pensais pas dans ce sens-là, peut-être que je penserais qu'il est tout à fait supportable. Ça veut dire que la façon dont j'ai de supporter l'autre ou d'avoir des relations avec l'autre, elle est fonction des relations que je conçois avoir avec quelqu'un d'autre. Alors non seulement ça donne un petit peu de modestie à la personne, mais ça fait que si on est critique, c'est parce qu'on a des projets pour l'autre, pas parce qu'on ne peut pas supporter les autres. On ne croit pas que si Akadosh Baruch Hu a exilé le peuple juif, s'il a fait détruire le Beth Amikdash, c'est parce qu'il ne supporte pas, c'est parce qu'il a un projet. Le projet doit être conçu malentrement, selon la façon dont l'autre réagit. Mais on ne concevra pas une minute que c'est simplement parce qu'il ne supporte pas, ou simplement parce qu'il ne veut pas. Ce même type de relation, c'est ça ce qu'il y a marqué ici. Achoti, Kala. C'est vrai que c'est Achoti. Pourquoi? Parce que je suis condamné à vivre avec le bon Dieu. Il m'a propulsé là-dessus. Je n'ai rien à dire. Je suis obligé de cultiver cette relation. Parce que je sens que cette relation m'est bénéfique. C'est une réalité qui est la mienne. Que si je ne la cultive pas, il va me manquer quelque chose. Mais c'est dans un certain but. Et dans ce but-là, c'est à moi de construire les choses. Au point que je pense qu'un jour, je ne vais pas dire que je vais être indispensable à l'autre. Mais je vais être complémentaire, j'aurai de quoi lui parler. C'est déjà quelque chose. C'est pour ça que la façon dont on travaille ce qu'on appelle les midotes, c'est-à-dire la façon qu'on va se conduire vis-à-vis des autres, elle est fonction des déotes, elle est fonction de la façon dont on voit le monde, dont on articule les choses. C'est pour ça que le Rambam, il n'appelle pas les midotes, midotes, les qualités ou des défauts, on n'appelle pas ça des midotes, il appelle ça des déotes. Parce que la façon dont tu construis ton monde, c'est la façon dont tu conçois les choses dans ta tête. Plus tu as conçu les choses d'une façon claire, et plus tu auras une façon claire de te conduire. Mais en soi, un homme n'aurait pas de mauvaises midotes, il n'aurait que de mauvaises déotes. Pourquoi ? Parce que il croit que c'est autrement. À partir du moment où il comprend, il verra tout de suite que la façon de se conduire, elle est totalement différente. Malheureusement, notre vie, elle est pourrie par ces deux problèmes-là. Elle est pourrie par Achoti, et elle est pourrie par Kalati. Parce que les gens n'arrivent pas à s'arranger. Ni avec Achoti. C'est vrai qu'avec la famille, on la supporte. Mais c'est difficile de lui donner un sens positif. Pourquoi ? Parce que les midotes sont tellement difficiles qu'on ne supporte pas que ses parents vous disent, et on ne supporte pas que vos enfants vous disent, on ne supporte pas ceci, on ne supporte pas cela. Alors que tout le lien de Achoti, c'est de savoir comment donner un sens à ces choses-là. La même chose qu'à Lati. Pourquoi les gens ont tel problème de couple et pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'environnement dans lequel ils sont. Au moment où ils se rendent compte, qu'est-ce que ça veut dire Kalati, qu'est-ce que ça veut dire Achoti, alors, à partir de ce moment-là, on peut cultiver. Et même si très souvent ça marche, il faut savoir que c'est souvent la faute d'un et pas la faute des deux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la chance d'avoir un conjoint qui absorbe tout et qui construit tout, et eux, ils font rien du tout, et ils s'imaginent que ça marche grâce à eux. Mais en vérité, c'est qu'il y en a un qui prend pour deux. Ça ne veut pas dire que c'est positif, ça. C'est-à-dire que de nouveau, il n'y a rien qui est à la place. Et ce n'est pas parce que ça marche comme ça que ça donne un sens. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très bien à l'intérieur de la famille, parce qu'ils ont écrasé les parents, écrasé les frères, ils ont écrasé tout le monde et tout le monde les supporte. Alors ils sont très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bien. Ça veut simplement dire que les choses ne sont pas à leur place. De savoir mettre les choses à leur place, il faut comprendre que ce n'est pas seulement une qualité de la vie. C'est une avoda, c'est un sens de la vie. Et qu'à partir du moment où les choses sont à leur place, on peut arriver à cultiver les choses dans leur bon sens. Si elles ne sont pas à leur place, alors tout est dénaturé et on passe son temps à des problèmes qui n'existent pas finalement, qu'on a créés soi-même, parce que on n'a pas su mettre les choses à leur place dans leur environnement normal. Vous allez dire, pratiquement, ça veut dire quoi ? Alors je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? Pratiquement, ça veut dire que si quelqu'un est marié depuis 15 ans, 20 ans, et qu'il n'est pas capable de mettre son œil à 4h du matin et de réveiller le conjoint pour aller faire une balade à Paris à 4h du matin, c'est qu'il n'a rien compris. Et quand vous allez lui dire, il va vous dire, non mais l'autre, il va être furieux. Non seulement il va pas être furieux, l'autre il attend que ça. Et si vraiment il y a un autre qui est furieux, alors il faut commencer à travailler de envoyer l'autre furieux. Ouais.
La problématique Achot Kala, elle est le paradigme en est le couple, dans tel que je le vois, Abraham Sarai. Il ne s'arrête pas de dire que c'est sa sœur. Et il arrive à faire ce que vous disiez pendant tout ce cours, c'est-à-dire à construire l'avenir et à la mettre à sa place et à se mettre à sa place lui au moment de la circoncision. C'est-à-dire que là, il y a non seulement la relation avec Dieu, l'alliance, la brite, mais il y a également le fait qu'elle devient la Kala. C'est-à-dire que là, on a la preuve qu'elle devient la Kala, puisqu'elle est enceinte, alors qu'elle ne pouvait pas l'être. Et il y a le changement de nom aussi. Alors, comme diraient les psychanalystes, là, il y a non seulement un changement de personnalité, grâce au changement de nom, qui permet sans doute ce que je viens de dire, et qui va permettre la sexualité dans le couple.
Et juste encore un mot.
Ouais. Par la circoncision, qui lui permet de lui enlever quelque chose, et que, comme disent encore les psychanalystes, il y a un manque qui crée le désir. Et ça va être comblé par Sarai. Alors, je crois qu'elle est devenue la Cana vraiment que parce qu'il y a eu le changement de nom et la circoncision. Et qu'est-ce que vous en pensez?
Et qu'avant c'était Achoti.
Voilà.
Je vais vous dire. Il y a deux façons de choisir son conjoint. On peut choisir quelqu'un qui vient de loin, qui n'a aucun rapport avec vous. Dans ce cas-là, il n'y aura jamais d'Arhoti, il y aura seulement Kalati. C'est très dérangeant. Parce que dans n'importe quel couple, on doit avoir les deux dimensions. Sauf qu'il ne faut pas se tromper, et il faut avoir les deux dimensions. Vous verrez pourquoi. Parce que si on n'a rien de commun, on n'a pas un désir commun qui vient avant le couple. On n'a pas, on va dire, des idées communes. On peut rien construire. On peut seulement vivre avec l'illusion d'être comblé. Mais on remarquera qu'après, on n'aura rien construit. On pourra sûrement rien produire, parce que le pauvre produit va être complètement cinglé. C'est comme le mariage mixte. Ça produit des gens déséquilibrés. Pourquoi ? Parce que c'est des produits de rien du tout. C'est des produits d'un avenir qui n'existe pas, puisque ça ne colle pas, et d'un passé qui n'avait rien de commun. Donc ça produit des déséquilibres. On est aussi obligé de choisir une Kana parmi la Harot. Tout le problème d'Avram et de Sarah, c'est que Sarah, jusqu'à ce qu'elle change de nom, et Avram, jusqu'à ce qu'il change de nom, quelle était la vraie nature? Et si c'était possible d'être ensemble, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que c'est tout un travail de sortir de la Avodah Zara. C'est des gens qui ont créé quelque chose de nouveau, qui dure encore aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas une petite multinationale. C'est toute la force du monde. Alors là, on peut comprendre que pour procréer, on est obligé d'abord d'arriver à quelque chose de commun. Et le jour où le bon Dieu sanctionne, il disait oui, c'est commun. Parce qu'il n'y a que lui pour dire si le monothéisme, il est vrai. Si l'idée est bonne. Mais nous, on ne va pas de si loin. Ça veut dire qu'on est obligé de créer les choses avant. Si on se marie avec quelqu'un à qui on ne peut jamais dire achoti parce qu'on n'a rien de commun, il n'y a rien, il n'y a pas d'avenir commun. C'est pas la peine de commencer non plus. Ça veut dire que dans une certaine dimension, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle les gens se trompent. Avraham, lui, il a fait tout à fait autrement avec son fils Yitzhak. Il a dit Eliezer, qui est Melard, si la monanati. Tu vas prendre seulement un endroit où je te dirai cela et pas les autres. Pourquoi? Parce qu'avec les autres, comment on ne va pas recommencer le travail que j'ai fait moi, par mon fils? Ça veut dire qu'on est obligé de commencer par un certain stade qui fait qu'on occulte tout ce problème-là. Parce que si on est obligé de reconstruire, on a perdu tellement de temps, et d'abord on ne sait pas comment on deviendra avant, après. Donc on a fait un travail qui est totalement inutile. Ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, ça ne peut pas se faire. Moi, j'ai constaté autre chose. Je vais dire ce que j'ai constaté. C'est que ce travail-là de savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on a comme idée, c'est pas tellement un travail dans les idées, mais c'est un travail dans les midotes, dans la façon de se comporter. Parce que si on s'entend bien avec quelqu'un, et que les midotes, elles sont, on va dire, à peu près équilibrées, il n'y a aucune raison que si j'ai une bonne idée, ce ne soit pas la bonne idée de l'autre aussi. Et s'il a une bonne idée à moi, donc on n'a pratiquement jamais de vrai conflit. Ça veut dire que les conflits des idées, partout passent, on ne va pas dire toujours, il ne faut jamais, mais très souvent, par les conflits du caractère. Ça veut dire que Achoti, c'est pas... Elle vient du même endroit, de ma même famille, quand elle dit, voilà, Maroc, Maroc, le sud, le nord, très précis, Meknès ou machin. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, hein, c'est si on s'entend bien. Ça veut dire que il est à l'écoute de l'autre, l'autre il fait écoute. Alors, les choses, elles passent, et on a beaucoup plus de commun que si on a les mêmes idées. Même si, au départ, on n'a pas les mêmes idées. Ça veut dire que ce qu'il faut regarder, c'est si les midotes marchent. Alors je dis, les déotes, elles marcheront automatiquement. Mais on n'a pas besoin de refaire toujours un travail qui n'est pas nécessaire. Alors pour Abba Marvinu, c'est quelqu'un qui est en train d'écrire l'histoire. Alors pour lui, c'est nécessaire. Alors on dit, c'est vrai. On voit que pendant longtemps, il était capable que de dire Achotiat. Et Achotiat, ça veut comment dire énormément. Pour quelqu'un qui est seul, qui a tout inventé, et qui dit quand même Achotiat. Mais une fois, il faut d'abord bâtir l'Achoti, et après on peut commencer quand même. Mais c'est sûr que si on n'a rien de commun, c'est exactement le type du mariage mixte. Quand même, je vois quelqu'un qui m'a demandé pourquoi vous êtes contre le mariage mixte. Je lui dis, je ne suis pas contre le mariage mixte. Je suis contre la prison. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui ne peut pas parler dans sa propre maison. Et s'il peut parler, alors pourquoi l'autre n'est pas comme lui? Donc il ne peut pas parler. Mais on ne peut pas enfermer quelqu'un. C'est-à-dire, tu te maries, tu te mets en prison, c'est fou. Ah, toi, tu ne vois pas ça comme ça. C'est parce que tu n'as rien à dire. Alors quelqu'un qui n'a rien à dire, d'abord il doit chercher s'il a quelque chose à dire, et ensuite il doit se marier. Mais pas d'abord se marier ensuite. Ça veut dire que je peux vivre avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi si je ne parle pas avec lui. Si tout ce qui m'est cher, j'essaie de ne pas le partager. Bon, ça c'est l'illusion, c'est comme dit qui dit la voiture tous les 3 ans, tous les 4 ans. Mais pour quelque chose de durable, je ne peux pas construire avec quelqu'un qui ne voit même pas ce que je fais, qui ne comprend même pas ce que je... Vous comprenez? Alors si tout le judaïsme c'est le couscous, c'est les machins, on peut trouver un terrain commun. Mais si c'est quelque chose de profond, que quelqu'un doit toujours se taire, toujours se taire, toujours se taire, c'est pas possible. Il va pas vivre en prison. Allez-y. Moi, je veux dire pire que ça. J'ai l'impression, moi, qu'on peut découvrir la profondeur de ce que nous appelons Dieu seulement à travers les hommes. Si on ne sait pas percevoir ça chez un homme, on n'a pas vu ça chez quelqu'un. Je vous donne un exemple. Si j'ai jamais vu quelqu'un de bien, comment je peux savoir qui est Dieu? Si je trouve personne bien, alors comment je peux avoir une idée de Dieu? Si je trouve personne dont je pense que je peux apprendre quelque chose, alors comment je vais imaginer qu'est Dieu et je peux apprendre de lui? Ça veut dire que l'exemple de Dieu, c'est l'homme. C'est vrai que d'un autre côté, l'exemple de l'homme, c'est Dieu. Mais cet exemple, il ne doit se nourrir que d'une perception que je peux avoir. C'est-à-dire que celui qui ne peut pas aimer quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Ça ne peut pas se concevoir. Parce que d'où tu vas avoir cette idée? Comment tu l'as pris? Non, je me construis moi l'idée que j'ai de ce qu'exige Dieu de moi, de ce que je peux recevoir de lui, de la relation que je fais avec moi, quand j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça. Celui qui n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui peut aimer, je ne vois pas comment il peut aimer le bon Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Donc on est obligé de passer par là. Alors s'il y a une telle distance entre l'homme et Dieu, et on ne pourra jamais aimer Dieu. S'il y a une telle distance, c'est qu'il n'y a pas une telle distance. Parce que celui qui pense qu'il a perçu quelque chose qui est vrai, eh bien il peut arriver à, on ne va pas lui donner le titre de Dieu, mais on va dire le sacraliser. Il peut arriver. Les chassidim, ils appellent ça la pnimiyut. La chaleur que l'on peut avoir vis-à-vis du bon Dieu, c'est la chaleur qu'on sait avoir les uns envers les autres. Mais on ne peut pas produire une nouvelle. Si quelqu'un fait une telle distinction entre le bon Dieu et l'homme, c'est que automatiquement, ou il a réduit l'homme, le bon Dieu à l'homme, ou alors il a sacralisé l'homme au point que même lui, ça peut être un bon Dieu. Alors c'est possible que là où il y a la confusion, tout le monde en prend plein la figure. Mais sinon, on est quand même obligé de dire que la moindre idée que je peux me faire de ce que ça peut être un rapport que j'ai avec le bon Dieu, c'est seulement par rapport à quelque chose que j'ai pu goûter ou j'ai pu remarquer chez un homme. C'est en ça que je veux dire qu'on n'est pas seulement des spectateurs. Parce que le fait d'avoir perçu quelque chose et maintenant d'en avoir besoin, c'est peut-être ça la relation que j'ai avec le bon Dieu, tout simplement. C'est même pas plus que ça. C'est d'avoir trouvé quelque chose. Alors après, j'ai besoin de le retrouver. Et où je peux le retrouver, ça c'est dans ma relation avec quelqu'un de bon. Donc si quelqu'un sait s'asseoir avec son copain et avoir une relation chaleureuse, après il peut aller à la choule, il peut avoir une relation chaleureuse avec le bon Dieu. Mais si là il ne sait pas, comment il va savoir? Il n'a pas les ustensiles.
Il y a un ordre arotique à la vie. Et cet ordre a l'air d'être important.
Oui, c'est ce qu'on a dit. D'abord arotique, ensuite calatique, parce qu'arotique, c'est le passé.
Et on peut être frère et sœur et ne rien avoir de commun, être très différents les uns des autres. Quand on choisit son épouse ou une femme choisit son mari, c'est qu'ils ont déjà quelque chose de commun et ils vont vers un avenir avec des valeurs communes ou bien...
Ça devrait être comme ça.
En principe, c'est...
Mais souvent, c'est que parce qu'ils n'ont rien de commun et que l'un est attiré par l'étrange.
Non, enfin, il n'y a pas commun, non, pas quelque chose de commun. Oui. Enfin, je suis d'accord.
C'est ça, changer de voiture.
Mais il démarre en général, quand on veut que ça soit réussi, il démarre en général avec l'attirance.
Ouais, ouais. Normalement, ça devrait être comme ça. Ouais.
Et l'anecdote arrive très souvent à faire rater cette réussite.
Absolument.
Et vous avez dit que quand on voit un couple réussi, à 90%, c'est que l'un des deux a eu une patience gigantesque.
Non, non, j'ai dit que souvent ça arrive, qu'il ne faut pas le mettre au crédit des deux. Il faut le mettre au crédit des deux.
C'est un proverbe aussi.
J'ai pas dit moi 90%.
C'est un proverbe. Ah bon, c'est un proverbe. On dit souvent que quand on voit un couple réussi, il faut sûrement penser qu'un des deux est très patient. Et vous dites que c'est pas ça la réussite du couple.
Non, exactement.
Est-ce que ça serait donc d'arriver à transformer Arkoti dans Kalati? D'ailleurs, les midotes seulement d'Arkoti, les amener à Kalati, est-ce que Skadush Boko, le message qu'il donnerait, c'est ça qui serait la réussite de mariage?
Je vais vous dire, non, il faut préserver les deux. Je vais vous donner un exemple. De même que moi, j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur à moi pour exercer ma liberté, je dois comprendre que l'autre aussi en a besoin. Donc je ne peux pas éternellement me servir des gens sans qu'eux puissent se servir de moi de la même façon. On est d'accord? Alors, Arkoti, c'est pas ça. Arkoti, c'est de dire, bon, on a quelque chose en commun, il faut se tenir les coudes. C'est vrai que c'est important. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'on a en commun? On a en commun les idées, on a en commun les projets, on a en commun. Mais après, il faut fonder quelque chose de nouveau. Sinon, ce qu'on a en commun, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec le mariage, ça a à voir avec des idées, ou avoir des projets, ou des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la personne elle-même. C'est pas un développement de la personne. À partir du moment où quelqu'un ne sent pas que dans une relation, il voit son propre développement, ce qu'il a perdu. Même s'il a une patience d'ange et que l'autre s'est bien développé, il l'a perdu. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que je dis que ça n'est possible que si on se rend compte que le développement se fait harmonieusement. C'est pour ça que les midotes souvent sont plus importantes que les idées. Pourquoi? Parce que là où les midotes sont bonnes, les idées passent très très vite. Parce qu'on s'oppose pratiquement jamais dans les idées. Pourquoi? Parce que c'est rare que quelqu'un ait toujours tout faux dans ses idées. Pourquoi vous avez vu que l'autre est toujours tout faux? Il n'y a pas de raison. Il est le même journal que toi, il voit les mêmes personnes, il voit la... Et pourquoi il a toujours tout faux quand il parle? Parce que tu ne peux pas le supporter. Ou parce que tu préfères dire toi. Il n'y a pas de raison. Il n'est pas tellement étrange, il ne vit pas dans un monde lunaire pour que chaque fois tu t'accompagnes ses idées. Donc ce n'est pas les idées qui sont le problème. C'est quoi? C'est qu'on ne le supporte pas lui. Mais les idées, on ne supporte.
Et pourquoi on ne peut pas inverser Kalati et Arkoti?
Parce que Arkoti, c'est un lien qui existe, alors que Kalati, c'est un lien qui se crée. Il y a pire que ça. C'est possible que le lien de Kalati, il n'existe jamais. Il se vit, ou tu vis bien, ou tu ne vis pas bien. Mais il n'y en a pas. Alors qu'Arkoti, c'est un lien qui existe. Vous comprenez? C'est pour ça que la tzniout, ça veut dire les choses qu'on ne fait pas en public. Pourquoi est-ce qu'on sent que ça doit être sanois, sans sens, ça doit être privé ou ça doit être intime? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir comme existant. Donc, on ne peut pas lui donner une existence extérieure. Ça disparaît comme c'est apparu. Et la preuve, j'ai la preuve. Moi, je vois des gens qui viennent et ils veulent divorcer. On se demande comment ces gens-là ont un jour été intimes alors qu'ils ont une telle telle. C'est pas possible. Donc, c'est que cet amitié n'a aucune valeur. Eh bien, c'est possible qu'elle n'a jamais de valeur. Elle n'a de valeur qu'à cet instant-là. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans tout le monde. Parce que ce n'a pas de valeur. Ça n'a de valeur qu'au moment où tu le vis. Mais après, tu peux être le plus... Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas possible. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pas bien. Comment elle raconte que il y avait Al et Tanaïm, les rédacteurs de la Mishnah. Sa femme lui faisait tellement d'ennuis qu'il a divorcé. Un jour, sa femme est venue, il a demandé de l'aider. Il a aidé, il est allé, il l'a marié, il a tout fait. Alors, ils ont demandé jusqu'où? Il a dit, bon, ça y est, divorcé, c'est divorcé. Il a dit, non, il est marqué dans le verset, c'est cher de Sancha, dit-elle. Mishaer besantra. Mishaer besantra, ça veut dire ce qui est proche de ta chair. Altitalem, tu ne peux pas le mettre de côté. Tu as été marié avec quelqu'un. Ça veut dire Ayoul basarichat, c'est la même chair. Maintenant, c'est devenu achoti. Ah, je ne peux pas la supporter comme kalati. Mais achoti, c'est achoti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire certaines choses avec quelqu'un. Et après, ah, c'est un étranger. Mais c'est dingue. Et là-bas, ça veut dire que certaines choses qu'on fait, elles n'ont pas de réalité. Ça ne veut rien dire. Absolument. Absolument. Mais je vais vous dire, il y en a un autre problème encore. C'est nous, c'est le problème des midot. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter que d'autres existent à côté d'eux. Puisqu'ils ne peuvent pas supporter, l'autre doit toujours être ou une émanation d'eux, ou un associé, ou un employé, ou... On a toujours besoin d'une relation qui est par rapport à soi. Alors qu'il y a une relation qui est normale, parent. Il faut savoir se tenir dans cette relation-là. Chaque fois qu'on dépasse, il y a un problème. On n'est pas obligé d'appeler un steak, c'est un peu gros. Mais c'est un abus. De même que la cesse, c'est un abus. Ça aussi, c'est un abus. Et ça, il faut savoir se limiter. C'est comme les gens qui font le judaïsme entier, c'est quoi? C'est honore ton père et ta mère. Mais c'est bizarre qu'il n'y a pas marqué « aime ton père et ta mère ». Ça veut dire qu'on peut ne pas aimer ses parents. Et on doit pouvoir vivre une relation normale parent-enfant sans les aimer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas basé là-dessus, c'est basé sur autre chose. « Achoti », ce n'est pas le problème aimer ou pas aimer. C'est le problème qu'on vient du même endroit, on doit se tenir les coudes parce qu'on fait partie du même tout. Et chacun sait que s'il y en a un qui flanche, l'autre flanche. Mais c'est possible que ça dans l'oreille là-haut. Vous comprenez? Tout ne passe pas par ce truc-là. Alors maintenant, quand on veut que ça passe par de l'amour, alors on devient un tyran, on devient... on fait des abus par-ci, on fait des abus par-là. Mais à la fin, c'est le problème des parents, c'est pas le problème de toute la relation avec les enfants. C'est qu'on a créé une relation avec les enfants qui est tordue à cause du problème des parents. Ça, les abus.
Attention.
Il y a un moment dans la vie où on doit vivre les idées, pas seulement les pensées. Comprenez, on peut changer de pensée, mais on reste toujours spectateur. En vérité, on n'a pas perçu la chose au fond. Si on perçoit la chose au fond, alors on doit changer. Ça veut dire que ça, c'est une honnêteté qu'on doit avoir. Alors je vais vous dire, je vais répéter ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps. Un enfant, il n'a pas l'idée de la mort. Il n'a pas l'idée de l'Olam Haba, il n'a pas l'idée de rendre des comptes. Mais il ment pas. Donc avec lui, on peut jouer sur la vérité. Un adulte, il a l'idée de la mort, il a l'idée de rendre des comptes, il a l'idée du sérieux des choses, mais il a l'habitude de mentir.